Il y a d'abord quatre, mais en fait, il y a huit conceptions erronées qui sont le propre de l'humain. Donc, la première conception erronée, s'ils ignorent la causalité que le bouddhisme développe, la première conception erronée, c'est de considérer comme permanente la vie humaine qui est impermanente, qui change tout le temps. Mais les humains, à 18 ans, 20 ans, ont l'impression qu'il est dur, c'est la vie du corps, le corps et les objets, tout ça existe, ils s'engouffrent dans l'existence en jetant sur les objets, en étant sûr que tout est vrai, tout dur, et tout est là, bien présent, machin. Donc c'est première conclusion. La deuxième conclusion, c'est de prendre le monde de souffrance dans lequel ils sont pour de la joie. Les gens se jettent sur les objets, consomment, en veulent plus, sont sûrs que la vie c'est la meilleure qu'ils vivent et que la vie est joyeuse. Et après ils ont des illusions, bien sûr, après, mais les médias ils se jettent dessus comme la vérole sur le bas clergé.
On est à la fois dans la culture générale et la philosophie, j'aime bien ces pointages.
Troisièmement, c'est croire pur ce qui est impur. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel être qui agit, si vous lui demandez quelles sont les raisons de ses actes, ils sont tous d'accord pour dire qu'ils ont raison d'agir comme ils agissent parce que c'est comme ça. Donc les gens sont sûrs qu'ils agissent au mieux et qu'ils sont normaux. Si on leur demande pourquoi c'est fait ça, et bien, il y a toujours des raisons. L'individu se justifie toujours par des raisons a posteriori d'actes qui s'imposent. Hein? Alors, c'est donc qu'il croit être pur alors que sa vie est une mascarade de bêtises, d'avidité, de colère, d'orgueil et de ce quoi. Et le quatrième, c'est s'attacher au moi alors qu'il n'y a pas de moi. Et fonder sur ce moi toutes les espérances, tous les vouloirs, machin, bidule. Alors évidemment, vous allez me dire, dans le bouddhisme des écoles provisoires, les êtres qui pratiquent les enseignements du zen, du bouddhisme tibétain, ou ce que vous voulez, basés sur leur petite sagesse, clament haut et fort que tout est impermanent, que cette vie n'est que souffrance, que cette vie est impure, et qu'il y a un non-moi, qu'il n'y a pas de moi. Donc ça c'est le propre des écoles inférieures du bouddhisme. L'impermanence des choses, l'impureté, la souffrance et le non-moi. C'est ce que hurlent à tout vent les écoles bouddhiques qu'on peut rencontrer. Mais ce que dit le Bouddha dans son enseignement définitif, c'est que ces écoles prônant l'impermanence des choses, l'impureté de la vie, le non-moi et la souffrance, s'opposent en réalité à l'enseignement définitif du Bouddha. Pourquoi ? Parce que l'objet de l'éveil du Bouddha, c'est justement la permanence du fait d'être, la félicité que l'on peut vivre en soi extrêmement profondément, la pureté de sa propre vie, qui est sans commencement ni fin, et qui est la cause et l'effet simultané, qui n'est pas entachée donc par un passé quel qu'il soit. Et en quatrième lieu, c'est une opposition en disant qu'il y a un non-moi, alors qu'en réalité, l'individu, en tant que soi merveilleux qui s'étend à tout, est bien présent. Donc, Donc, aussi bien les gens ordinaires qui ne pratiquent pas que les gens qui pratiquent l'enseignement provisoire du bouddhisme accumulent huit types de conceptions erronées qui les fait rester dans la souffrance, par mépris ou par incompréhension de l'enseignement du Bouddha originaire. Et en l'occurrence, quand le Bouddha s'éveille, ce qu'il réalise, ce sont les quatre vertus de permanence, joie, le moi, s'étant à tout, et félicité, bien entendu. Dans l'éveil. Oui, mais c'est... Oui, et comment sortir de l'état humain? Mais sortir mal, parce qu'en fait, ces gens se reposent sur la vacuité des choses. Dès qu'il y a un non-moi, tout est impur, tout est impermanent, c'est parce que c'est vendre la vacuité, vendre l'extinction, c'est vendre la notion d'arriver à un rien qui serait la... Ben, j'espère bien. Alors que c'est faux.
Non, mais on dit bouddhiste.
Oui, oui, on dit, voilà, c'est ça. Oui, j'y pense aux écoles intérieures. C'est le zen, le bouddhisme tibétain, Hinayana, Mahayana provisoire, tout ça. Donc, pour en revenir à nous, le dimanche matin, les émissions religieuses sur le bouddhisme, il y a toujours des tenants du zen, du bouddhisme tibétain, il y a vraiment les mêmes choses, toujours, hein, bien sûr. L'impermanence, le non-moi, machin. Alors que c'est tout. Et donc, pour ce qui nous concerne, le Bouddha explique que, bien que la personnalité soit permanente, s'étendant à tout ce qui est, et une source de joie infinie en elle, et soit pure, dans la réalité des êtres, c'est pas ce que l'on voit. Les êtres ne pratiquant pas, on voit le contraire, hein, on voit l'impureté, la bêtise, machin.
Donc la personnalité, c'est personnalité, mais le ressenti.
Oui, c'est pareil, parce que ce ressenti est toujours singulier. C'est toujours un ressenti, qui signe la personne. Mais du reste, comprenez bien, du moment qu'on fait un choix, à chaque instant, ce choix signe notre personnalité sans commencement ni fin. Si on fait un choix, on peut faire ceci à cela, si, ça devrait pouvoir nous éveiller au fait que on ne peut pas être autre que nous-mêmes. Schopenhauer dit, la personnalité se découvre. Eh oui! Quand le gosse a deux bras, déjà, tu sais qu'il va être différent de sa sœur parce qu'il est turbulent, machin, et puis, tu vois une personnalité qui apparaît, mais c'est pas un acte, la personnalité. Tu découvres ta personnalité. Donc, le fait de faire des choix, de faire ceci à cela, ou d'aimer ceci, de pas aimer cela, forcément, ça montre une individualité, une personnalité qui n'a pas de point de départ, mais qui est subie toujours.
Il faut un certain temps pour servir.
Ah oui, bah, tu connais ce que tu es, bah, je crois, moi, à 20 ans, à 30, à 40, à 50, à 60, je sais pas, moi, j'ai quand même le temps qu'il veut, mais ta personnalité, tu la découvres au fur et à mesure. Tu sais que tu préfères ceci, cela, t'aimes pas les séminaires, machin, bon, tu découvres ça. D'accord. Bon, pour en revenir à la doctrine, il est écrit que les pouvoirs divins, c'est-à-dire ce qui semble dépasser les caractéristiques humaines, c'est ce que nous, les êtres, manifestons à chaque instant, à tout moment. Naître, durer, vieillir et être malade et mourir, sont toutes ces choses sont la substance des pouvoirs transcendantaux des premiers phénomènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que tout ce qui naît, tout ce qui se maintient à peu près identique, tout ce qui est périclite, tout ce qui vieillit, tout ce qui tombe malade, tout ce qui meurt, tout cela n'est que le jeu de choses divines, d'être manifestant des pouvoirs divins, uniquement pour le sujet qui les observe. Seul qu'on se réjouit de l'apparition d'un enfant, on se désespère de la maladie d'un tel, on souffre de la mort de l'autre, mais pour ce qui est de ceux qui nous montrent ça, l'enfant qui naît, l'autre qui est malade, l'autre qui meurt, c'est pas un vouloir, c'est nous qui avons besoin de ça pour être. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît dans notre existence, personne n'est responsable de rien, mais c'est juste notre vouloir être qui voit ceci ou qui voit cela, qui rencontre ceci ou qui rencontre cela. Donc c'est une sorte de jeu, une collusion, mais sans intention. Et le monde c'est toujours ça. Les phénomènes apparaissent tout le temps en tant qu'effet, et l'un pour l'autre offre des images en miroir. Et les souffrances des êtres viennent de tu crois ça vrai, tu crois que c'est vrai. Oui, pourquoi pas. Oui, par exemple, un incendie, on est dans un cinéma, on est 150, il y a un incendie. Donc l'incendie, c'est une chose, et il va y avoir de la frayeur pour une grande majorité des gens, mais dans cette frayeur, il y aura des gens qui vont secourir d'autres personnes, et il y a des gens qui vont marcher sur la tête d'autres personnes. Il y en a peut-être un qui va dire, chic, l'assurance va me rembourser. Et l'autre qui est dit, qui va penser, chic, ma bouteille Molotov a bien fonctionné. Donc, somme toute, sur un événement donné unique, il y a une pluralité possible. Chacun va vendre ce qu'il est. Toujours, hein. Toujours. Maintenant, ça va être beaucoup plus simple. Je vous signale pour le cas où vous vouliez sortir sans payer, ça va être plus simple.
Si vous jamais.
Non, il est bon, là. Bah, non, j'ai dit ça, mais je suis loin.
Ouais, parce que.
J'ai chaud, moi. Non, ça va, ça va. On y va? Donc, alors, dans l'enseignement du Bouddha, si l'on considère donc l'existence du corps et l'existence de l'esprit, on peut supposer que ce sont deux choses distinctes, alors qu'en réalité c'est faux, c'est une seule chose, le corps et l'esprit. Donc le souverain de la loi dit que cette existence double du corps et de l'esprit transcende toutes les transformations dues au temps, toutes les vicissitudes. Cette existence est infinie et éternelle. Là, on parle de nous. Notre existence en tant que corps et en tant qu'esprit est éternelle. Et elle se développe toujours sous la forme des 10 mondes. C'est-à-dire que toujours de l'enfer, animalité, avidité, colère, joie, tranquillité, jusqu'à l'éveil, il y a toujours corps-esprit, sans commencement ni fin, mais toujours c'est alimenté, enfin, c'est l'expression d'un état ou d'un autre, en tant que effet. D'où notre capacité, nous, d'intervenir là-dessus en pratiquant. Mais tout ce que l'on voit, nous, sous forme de choses et d'objets et de phénomènes, en réalité, c'est la souffrance, c'est l'avidité, c'est la stupidité, c'est la colère, c'est la joie, c'est la tranquillité. Le Bouddha voit les états, nous, on voit les formes. Mais ça, donc, on peut pas y échapper, c'est permanent. Aussi, je voulais vous parler un peu des grandes semences. Empédocle, moins 5 avant Jean-Claude, dit que c'est à partir des 4 éléments de la terre, de l'eau, du feu et du vent que toutes choses sont formées et ajustées. Et ce sont aussi ces 4 éléments qui forment la conscience, le plaisir ou la douleur. Donc 5 siècles avant Jésus-Christ, quelqu'un en Italie prenait une logique identique à celle du Bouddha, en disant que tout ce qui est l'ajustement de la terre, de l'eau, du feu, du vent, et que c'est cela qui fait la conscience, le plaisir, la douleur. C'était dit à l'époque, donc, par Empédocle. Ça, c'est démocrite. Empédocle, non, il pense trop pas, c'est démocrite. Donc, l'enseignement du Bouddha, le Bouddha est apparu au Japon, dit Jiren Daishonin. Donc, quand il a vu les Japonais du XIIIe siècle, déjà qu'au Japon ils sont cons même maintenant, alors au XIIIe siècle ça va être encore pire. Quoi qu'on avait. Qu'on avait affaire à des abrutis illettrés qui se jetaient sur les choses qu'on utilise avec ça de leur journée. Donc. Non, c'est vrai. Pardon. Donc. Quand le Bouddha originel a vu ça, il s'est dit, il faut faire avec, quelque part. On n'a pas le choix, on va pas attendre un monde pur avec des gens paisibles pour commencer à enseigner la loi. Donc il dit que le problème n'est pas de dominer les illusions. Par contre, ce qui est important, c'est que l'on puisse comprendre que la substance de l'être ordinaire est telle qu'elle présente à l'origine. C'est la base de l'éthique. Il faut comprendre que ce que nous sommes est l'origine sans commencement ni fin. C'est là-dessus que des actes vertueux vont pouvoir se placer. L'origine de l'éthique, c'est pas celle de Spinoza, c'est le fait de s'éveiller au fait que ce que nous sommes ne peut ni apparaître ni disparaître, que nous ne sommes pas dans le temps ni dans l'espace. Et c'est toujours notre qualité qui produit une notion du temps et une notion de l'espace. Donc la base de l'éthique, c'est ça. C'est de réaliser que notre propre personnalité n'a pas de point de départ. Ça, on peut le faire en pratiquant, on peut s'y éveiller. Si on ne fait pas ça, comme le dit Nietzsche, vous n'aurez qu'une vie fugitive dans votre conscience. Parce que vous serez pris par des choses qui arrivent et qui disparaissent, et il y en aura toujours à faire, il y aura toujours des gosses à nourrir, il y aura toujours une vieille à les soigner, il y aura toujours des machins. Et vous serez donc happé par des choses qui ne servent à rien, parce qu'il y en a tout le temps. Et les mêmes, qui n'arrêtent jamais. Donc c'est pas bon. On peut aller aider une vieille qui dort, par exemple, ou les confesser si on veut, mais pour l'héritage. Mais nous pratiquer aussi avec en même temps. Donc, il est dit, donc, Nikan Shannon dit que la substance fondamentale de la loi, c'est Nyorolangekyo, c'est-à-dire la simultanéité de la cause et de l'effet. Donc, dit-il, on peut considérer le passé infini comme existant en permanence. Nous sommes le passé infini existant en permanence. Aussi dit-il, la une pensée instantanée correspond telle qu'elle à l'éternité sans commencement. Cette une pensée qui est la nôtre existe elle-même à l'origine, elle est présente en permanence et est sans commencement ni fin. Vous comprenez bien que quand on dit que la une pensée est sans commencement ni fin, présente à l'origine. Si on dit pour l'humain une pensée, il dit, lui, il voit un. Une pensée, c'est une. Bon. Si on dit après qu'elle est en permanence, bah, l'individu verra un passé et un futur, donc il dira comment que un 1 peut être multiple. Si c'est un 1 à travers passé, présent, futur, c'est un multiple. Il y a différents objets qu'on perçoit, différentes sensations, différents pouvoirs, différentes choses qui se présentent. Et le souverain de la loi dit que c'est le grand principe de la loi merveilleuse où l'unité et la pluralité sont mutuellement identiques dans le temps et dans l'espace. Autrement dit, le 1 et le multiple, qui est appelé choubra des théologiens, n'est-ce pas, l'opposition du 1 et du multiple, est une foutaise. C'est uniquement la vue humaine qui distingue un 1 et qui distingue un multiple. En fait, on jette plus profondément, le 1 est toujours issu du multiple, et ce 1 retourne multiple. Comme disait Anaximandre, en Grèce, il dit, ce qui est l'étang naît de l'infinité et retourne à l'infinité tout le temps. Donc, juger en termes de 1 et de multiple, on ne peut pas y arriver. Par contre, ce qui est certain, c'est que la une pensée momentanée, elle, est permanente à l'origine. Votre une pensée. Notre une pensée.
C'est une pensée de 3000.
C'est ça. Voilà. Elle naît de l'infinité de 3000, et si l'on pratique, elle influe sur une infinité de 3000. Mais si on ne pratique pas, elle n'est que le jouet d'une infinité de causes et de conditions dont elle est l'été à chaque instant.
En sachant qu'une pensée de 3000 s'applique également.
Oui, mais la une pensée de 3000 en tant qu'effet, c'est le propre de tout ce qui est. Alors que la une pensée de 3000 en tant que cause, c'est si l'on pratique. Et c'est donc la vie du Bouddha aussi. Hein,
et c'est aussi,
C'est ça.
Donc on peut tout changer.
Mais sur le principe. Par exemple, récemment, je parlerai du psychologue, machin, ma femme, mon ex, un autre psychologue dit aux élèves, dans l'école lui il dit, il n'y a rien à faire, tout est fait d'avance, c'est le destin, on ne peut rien faire, machin, bidule, sur ce qui se passe. Bon. Et elle prend la parole en disant, je suis pas d'accord, si l'on décide, en un instant, tout peut changer. Mais dire qu'en un instant, tout peut changer à des élèves, c'est les amener, après, à se culpabiliser, parce qu'ils n'ont pas réussi, eux, à changer selon ce qu'ils voulaient. Or, dire tout peut changer, c'est vrai, mais c'est vrai seulement si tu pratiques matin et soir. Si tu pratiques pas, la concierge va rester une concierge, même si elle fait des efforts dans les escaliers avec son son. Oui. Il n'y a pas de changement possible pour les êtres.
Mais quand même, potentiellement, il y a...
Ah oui, bien sûr. Alors, vous allez me dire, oui, mais mon lapin, s'il veut devenir une libellule, il peut. Moi, je dis que le lapin devienne vert d'un coup et marche à 50 km/h, ça me surprendrait beaucoup, avec 4 ailes. Par contre, si on me dit, oui, mais sur le principe, à travers les réincarnations, il peut devenir un jour une libellule. Oui, mais pour l'instant, c'est un lapin, et il va agir comme un lapin. Mais entre le potentiel et la réalité, il y a quand même une différence. Donc, pour en revenir à nous, Parménide d'Élée, un homme bien, dit à propos de ce qui est l'étang. Il dit jamais il n'était ni ne sera, car il est au présent, tout ensemble, un et continu. L'étang est permanent. Il dit aussi, il est tout entier plein d'étang, aussi est-il tout entier continu, car de l'étang touche à de l'étang. Ce qui signifie que Parménide d'Élée, à moins 5 avant J.C., dit que ce qui est façonné d'étang à l'intérieur, et par rapport à l'extérieur, comme l'étang touche l'étang, et cet étang est infini. Et en plus, il le dira après, dans le poème, il dit, alors, je repropose l'étang, immobile dans les limites de larges liens, il est sans origine et sans fin, puisque la naissance et la mort ont été écartées par la croyance vraie. Le même est restant dans le même, il se tient en soi-même, et c'est ainsi qu'il reste planté là, au sol, car la nécessité puissante le tient dans les liens de la limite qui l'enclôt tout autour. C'est pourquoi il est de règle que l'étang ne soit pas dépourvu d'achèvement. Comme on dit, Parménide dit que l'étang est prisonnier par la nécessité, c'est-à-dire qu'il naît avec un corps, il a un corps, hein, et il naît grec, il est grec, il naît esclave, il est esclave, il naît femme, il est femme, bon. Donc, il voit la nécessité, la forme est produite par la nécessité, donc c'est ce qu'on appelle le karma, nous, hein, par, hein. Mais il voit que c'est une série d'effets, et il voit que l'individu est immobile. C'est-à-dire que sa vie sera toujours la même. À travers le temps, s'il n'y a pas de temps. Et il dit à propos du temps que le temps n'est ni ne sera quelque chose en plus de l'étant, puisque c'est lui que le destin a attaché pour que complet et immobile il soit. Bon, Parménide dit que le temps n'existe pas, que l'étant est infini et s'étend à toute chose. Moins 5 avant Jésus-Christ. Et à propos du mort, à propos du défunt, il dit, regarde par la pensée les choses qui ne sont pas là, comme étant là fermement. Car tu ne pourras pas diviser les temps à part de l'étang, et il ne pourra pas se tenir ni dispersé partout en toute manière de par le monde, ni rassemblé. Donc il dit que, pour ce qui est des choses qui existaient et qui ont disparu, de les considérer comme toujours présents par l'esprit, parce que ce n'est pas parce que l'étang est dispersé ou qu'il est rassemblé, qu'il est plus ou moins, il est toujours pareil. Il n'est pas plus rassemblé quand il est dispersé qu'il n'est dispersé quand il est rassemblé. C'est ce que l'humain voit. L'humain voit apparaître et disparaître les choses, mais il n'y a pas. Parménide de Lé, à moins 5. Et je vous citerai également Héraclite, qui est un garçon très bien. Donc il dit lui, donc à moins 540 à peu près, avant Jésus. L'univers entier s'écoule à la manière d'un fleuve, quand il voit que tout change tout le temps. Il dit, tu ne peux pas entrer deux fois dans le même fleuve. Le fleuve change constamment. Le fleuve est un nom donné à un objet qui change constamment. Et il dira en outre, le monde n'est pas engendré selon le temps, mais selon la pensée. Et ça c'est hyper beau. Il dira encore, Héraclite, ça c'est pour les humains ordinaires, il dit, un jour est égal à tous les jours. Fait que vous ne verrez jamais que vous-même tout le temps. En cela, un jour est égal à tous les jours. Si vous ne pratiquez pas, bien sûr, enfin, il ne dit pas, mais c'est sous-entendu. Et la meilleure, celle qui fait rire tout le monde, l'Héraclite dit, à propos de ce qu'il vient de dire, bien sûr, des vérités qu'il révèle, il dit, le manque de foi fuit pour ne pas connaître. Le manque de foi fuit pour ne pas connaître. Autrement dit, le manque d'honnêteté vis-à-vis de notre propre vie, c'est-à-dire le refus de croire, c'est un refus par peur de connaître ce que nous sommes. Ça, c'est beau. Le manque de foi fuit pour ne pas connaître. Et je vous citerai Démocrite, qui est un brave garçon aussi, qui dit « Rien ne saurait être engendré à partir du non-être, et rien ne saurait, en se modifiant, retourner au non-être. Il n'y a pas de néant. Il y a présence permanente de ce qui est. » Il dit aussi, il est impossible que les choses soient engendrées, puisqu'en effet, le temps n'est pas engendré. Comme le temps n'existe pas, comme le temps n'est pas créé à un moment, comme le temps n'a pas de point de départ, ce qui est permanent. Et il dira, le hasard n'est cause d'aucun événement. Donc c'est typiquement ce que dit le Bouddha, et nous en félicitons le grand Démocrite d'Abdère. Donc Nichiren dit pour cette raison, à propos de l'expression « devenir Bouddha dès ce corps », il dit « mes disciples doivent uniquement porter attention à cette question « devenir Bouddha dès ce corps » en laissant toute autre question de côté. La seule chose à faire, c'est l'atteinte de l'éveil. Donc qu'on puisse parallèlement aller en vacances au Gabon ou manger de la salade et des frites, pourquoi pas. Mais la préoccupation prioritaire, c'est d'accéder à l'éveil. En plus des autres. Mais celle-là en priorité. Et il dit cette chose merveilleuse, Nichiren, toujours il dit, à présent, Nichiren et les siens sauvent les êtres par Nam-myoho-renge-kyo. Hormis cela, il n'est pas de finalité. C'est seulement dans le fait de réciter Daimoku nous et par là même d'influer sur les êtres autour de nous, voire même de les amener à la pratique, mais même ne serait-ce que nous pratiquer, il n'y a pas d'autre finalité à l'existence que d'amener l'intégralité des êtres vers l'éveil, et nous-mêmes aussi. Aussi, on pourra dire également que il est dit dans un texte que c'est l'éveil des autres le plus important pour nous. Donc on va dire pourquoi l'éveil des autres serait-il plus important que le nôtre. Et en fait, c'est simple, c'est que les autres, c'est soi-même. Par exemple, Nichiren dit, à quoi bon avoir une maison en bon état si les pillards et les violeurs courent partout dans le pays? L'idée de son propre éveil personnel, c'est avoir une maison à soi. Et si tout est dévasté par les criminels autour, ça sert à rien. Comme on dit, c'est le fait d'amener les autres à l'éveil qui est la finalité de notre existence. Ça, c'est évidemment, bien sûr, quelque chose qu'on peut comprendre. Et on va arrêter bientôt, là, vous inquiétez pas. Donc, je disais tout à l'heure à Brigitte, elle a un lapin. Vous allez le savoir. Mais un lapin, c'est quoi? Un lapin, c'est un truc qui naît. Alors, il joue avec les autres, le lapin, puis il compte, ça va en mettre des mois. Après, il change des gonzesses, il y a de la bouffe, tout ça. Bon, il a peur des éléments qu'il craint. Donc, la vie du lapin, c'est ça. Hein. Donc, il y a une gamme de palettes d'expression et de sensibilité. Elle prend le lapin chez elle. Donc, au fur et à mesure, il s'acclimate. Et à un moment, le lapin, il se rend compte qu'être ploté, c'est bien. Je suis bon de la nature, peut-être que ses copines ne le plottaient pas, je sais pas, mais disons que là, quand il se rend compte qu'il y a un adulte qui le plotte pendant une heure, lui, il a mangé par terre, il dit « mort ». Mort. Et après, quand il se pointe vers elle et qu'elle le caresse pas, lui, il dit « moi, j'ai envie de cette qualité de vie », donc, il la pince avec ses dents pour lui dire « eh oh, comme ça, alors qu'est-ce que c'est qu'elle le plotte ». Donc, il trouve une machine qui le plotte, et il adore être ploté. Alors, quelque part, c'est génial pour lui. Pour une avance, dès qu'il verra un humain, crac, c'est un ploteur. Constant. N'importe. Tout ça pour dire que tous les êtres aspirent à la qualité de vie la plus haute. Le lapin ne connaissait pas le plotage, maintenant il adore. Aussi, quand il fait d'Aïmoku, il se colle près d'elle devant le Soudan. Parce que, c'est son qualité. Donc, maintenant, dès qu'il arrive chez elle, il se met devant, il attend que ça chante. Il est donc quelqu'un de pratique. Il se met là, soudain, pour entendre le bruit, pour entendre ce son. Il sent que c'est une qualité plus haute. Et donc, tout ce qui vit est comme ça. Tout ce qui vit recherche la qualité la plus haute. Même Sarkozy, qui se fait élire aux plus hautes fonctions de l'État, il cherche la qualité la plus haute. Donc, tout va dans le sens d'essayer de trouver une qualité de vie plus élevée, plus riche, plus grande, n'importe comment. Les hommes, les humains, enfin, n'importe quoi pour ça, mais tout aspire à une qualité plus haute. Donc, vis-à-vis de l'enseignement du Bouddha, il est dit que toutes les existences présentes dans ce monde se meuvent et fonctionnent en relation avec la voie, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha. Comme l'enseignement du Bouddha donne l'éveil, c'est la qualité la plus élevée en tant que vivant, donc forcément, tout converge d'une manière ou d'une autre, aspiré par cette qualité inhérente à l'enseignement. Donc il est dit que tous les êtres, aussi bien les êtres visibles qu'invisibles, sont soumis à cette propension et se dirigent vers cette qualité, même si c'est arculon, ou même si c'est de bon gré, mais que c'est comme ça tout le temps. Donc il est dit, l'immense principe du Sutra du Lotus représente l'enseignement et la voie guidant l'ensemble du monde des phénomènes. Autrement dit, l'instantanéité de l'existence, le fait que vous soyez présent à cet instant, et que vous récitiez Daimoku, est l'expression d'un rassemblement d'une infinité d'êtres, et c'est également l'achèvement de ce que vous êtes et de ce qu'ils sont, au plus élevé. Lorsque l'on pratique Namuro Rengekyo, cette instantanéité de la pratique, enfin la présence physique, c'est la réunion de l'infinité des êtres que nous dirigeons vers l'éveil, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. C'est ce qui se passe. Avec l'acte physique de pratiquer matin et soir. Donc le Bouddha originel dira, le mouvement de la terre dépend du mouvement des six racines des hommes. Les six racines sont le goût, le toucher, l'odorat, la vue et la conscience. Donc il dit que le mouvement entier de tout ce qui est déterminé par la qualité, par la vertu de ce que nous produisons en termes de pensée à chaque instant. Donc, pratiquant matin et soir, tout ce qui est autour de nous tourne en fonction de ce que l'on fait. même si on ne le voit pas, même si on ne peut pas le mesurer avec un mètre. C'est ce qui se passe. Et je vais terminer. Ah oui, là-dessus, c'est bien. Il est dit, à propos de la mort, que lorsqu'on observe avec calme et rectitude au moment de l'instant suprême, la mort, à la lumière des enseignements du Bouddha originel, sachez que même sans guérir de la maladie et avoir à faire face à la mort, les souffrances de l'enfer s'effacent, la maladie est vaincue et les trois actes physiques, verbal et mental s'harmonisent immanquablement. Alors, les quatre souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort de cette vie se transforment en quatre vertus de permanence, félicité, soi et pureté. Tandis lorsque nous récitons Daimoku, Nichiren explique que quand on récite Daimoku dans la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, nous soufflons le parfum des quatre vertus. Namu, qui consiste à retourner sa vie aux racines de son existence, il dit, Namu est la félicité suprême. Ça, on peut le réaliser en pratiquant. Myoho est la perfection du moi, d'un moi qui s'étend à tout. Renge est la perfection de la pureté, ce qu'on réalise que notre vie ne peut ni apparaître ni disparaître, et qu'elle est l'expression de la cause et de l'effet simultané. Et enfin, Pyo est la perfection de la permanence, ce qu'on réalise que notre vie est permanente. Ça, c'est contenu dans le fait de pratiquer physiquement matin et soir. Et aussi, très bientôt j'ai plus de voix. Nichiren dit, à propos de la mort, il dit c'est une vérité sans distinction, que l'on soit intelligent ou sot, âgé ou jeune, la mort peut se produire. Aussi convient-il d'apprendre en premier lieu ce qui concerne l'instant suprême de la mort et d'étudier le reste seulement après. Première chose, donc, essayer de comprendre ce qu'est notre propre mort, notre propre vie, donc, en l'occurrence. Et il est dit, ensuite, qu'il y a l'instant suprême au cours des nombreuses pensées et l'instant suprême instantané au moment de la mort. Et il est dit à ce propos que l'instant suprême au cours de nombreuses pensées signifie réciter Nam-myoho-renge-kyo en marchant, ou bien immobile, ou bien assis, ou bien couché, avec l'état d'esprit que ce jour, cet instant, est peut-être la dernière, que on va mourir et que cette heure est imminente. Quand un instant suprême instantané, il dit, c'est la pensée au moment de la mort, qui est étroitement dépendante des actes et des œuvres effectuées au cours de nombreuses années. Il dit les choses suivantes. En fonction des actes accumulés pendant des années, c'est comme une propension que l'on prend. Et c'est comme un arbre qui est vieux, est rarement tout à fait droit, il a pris une orientation. Et forcément, l'arbre qui va s'effondrer du côté de l'endroit où il est orienté. Il en va de même pour la vie, pour nous. Selon l'orientation qu'on donne jour après jour, il y a un biais qui est pris, et au moment de la mort, on tombe du côté de ce biais, comme un arbre tombe du côté où il penche. Il n'y a pas d'arbre qui meurt debout et reste debout jusqu'à des millénaires après. Donc, le fait de pratiquer matin et soir, c'est donner une propension à notre existence qui sera le lieu dans lequel notre réalité sera après la mort. Ça, on peut le faire pour nous, on peut le faire pour autrui. Après, je réalise en pratiquant que je fais un coup de gong pour un défunt. Ça fait maintenant 25 ans. Je réalise que ça fait 25 ans. Depuis 25 ans, je lui donne une propension. Il ira du côté de la propension que je lui donne. Telle est ma vertu. Donc, c'est ce qui se passe. Eh bien, on va terminer sur un truc drôle.
Une bouteille.
Un truc drôle.
Avant que vous ayez encore un peu de temps, mais... Ah oui, tiens, un truc marrant. Dans les entretiens du Bouddha, il est dit, dans la voie bouddhique, on qualifie de mort le fait de renoncer à l'ascèse et de retourner aux habitudes. Ce qu'on appelle la mort dans le bouddhisme, c'est l'arrêt de l'ascèse. C'est drôle, non? Parce que c'est le retour des habitudes millénaires. Ça vous a pas fait rire, bon. Alors tiens, on va terminer là-dessus. Alors, Nietzsche dit, devenir Bouddha n'est pas quelque chose de particulier. Si vous récitez seulement Nam-myoho Renge Kyo, vous vous doterez naturellement des 32 signes et des 80 marques distinctives du Bouddha. Vous deviendrez Bouddha facilement, comme Shakyamuni le disait, comme moi, sans différence. Par exemple, au début, l'œuf d'un oiseau est liquide. Sans que personne n'intervienne, voilà qu'apparaît un bec, voilà des yeux, et enfin il peut s'envoler dans le ciel. Nous-mêmes sommes des œufs, plongés dans l'obscurité, et dotés de corpille. Cependant, couvé par notre mère, la récitation de Nam-myoho Renge Kyo, le bec des 32 signes apparaît, et les plumes des 80 marques distinctives poussent, nous permettant alors de voler dans le ciel de l'incité du véritable aspect. À ce sujet, le sutra énonce « L'ensemble des êtres demeure dans l'œuf de l'obscurité et est dénué du bec de la sagesse. L'éveillé brise en le frappant l'œuf de l'obscurité, permettant ainsi à tous les êtres de quitter le nid et de s'envoler dans le ciel de l'incité de la nature de la loi. » Super. À la prochaine, les deux. Voilà, pas de suicide en vue, c'est bon. Ah, une dernière, non? Une dernière qui est très belle.
Oui.
Allez. Celle-là, elle est belle. Là, il ne sera pas. Celle-là, elle est cela est très belle. À propos donc du Nichiren disait, Namu c'est la vertu de la félicité, Myoho c'est la vertu du moi, Renge la vertu de la pureté, et Kyo la vertu de la permanence. Donc il est dit que dans ce Sutra du Lotus, dans le 11e chapitre, apparaît une tour, enfin, un stupa précieux, qui se lève dans les airs pour ratifier l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, et le Sutra dit que des parfums émanaient des santales émanaient des quatre côtés de la tour. Nichiren dit à ce propos. Les quatre côtés de la tour sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ces quatre aspects cernent, ornent notre stupa personnel. Lorsque nous récitons Nam-myoho Renge Kyo à la naissance, à la vieillesse, pendant la maladie et pendant la mort, nous exhalons le parfum des quatre vertus. Et ensuite il dit, le commentaire, le sutra du lotus garantit ni vieillesse ni mort. C'est écrit dedans. La non-vieillesse désigne la fonction de la vie toujours jeune et vive, évitant une vaine décrépitude ou la sénilité. Quant à la non-mort, cette expression se rapporte à l'établissement de la vision de l'éternité de la vie, par laquelle il ne peut y avoir de mort soudaine ou de mort dans la souffrance ou l'agonie. Si on pratique, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de mort soudaine, ni dans l'agonie. Et en dernier lieu, Nichiren dit, celui qui souffre de maladie devient plus vite Bouddha. En effet, grâce à la maladie, l'esprit se tourne vers la voie. C'est drôle, non? Bad joke. Et maintenant, mon scotch, chiotin.
Oui.